à collaborer avec tous les partenaires pour mettre ensemble nos forces pour pouvoir assumer cette mission qui nous est donnée de garder nos aînés le plus longtemps chez eux.
Et est-ce qu'il faut trouver de nouveaux outils justement pour pouvoir lisser cette situation ?
Alors, trouver de nouveaux outils, c'est difficile. Il faut surtout que les formations qui ont été mises en place, parce qu'il y a de nouvelles formations qui ont été mises en place, puissent aboutir. Et il faut surtout attirer les gens dans ces métiers-là. Si on arrive à faire venir plus de jeunes et à les garder ensuite chez nous, la situation pourrait s'améliorer. Mais pour l'instant, on est vraiment dans une phase de transition. Des nouvelles formations ont été créées. On attend qu'elles aboutissent. Mais on sait déjà que ça ne sera pas suffisant.
Et quand on reprend une présidence, est-ce qu'on veut aussi amener un petit peu sa touche ? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous allez insister ? Parce que ça vous tient à cœur.
Oui, il y a des points sur lesquels je vais insister. Moi, mon leitmotiv, c'est de dire toutes ces personnes qu'on aide aujourd'hui, donc essentiellement nos aînés, sont des personnes qui ont construit notre pays. On doit leur donner la prestation la plus développée, la meilleure possible. Et évidemment, en tenant compte des contraintes auxquelles on fait face. Mais dans ce contexte-là, je pense qu'un bon lobbying auprès de nos politiques et puis une promotion de tous ces métiers de la santé qui sont si importants, c'est quelque chose à faire.
Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à cette présidence ?
Oh, de réussir à maintenir cet objectif, de réussir à faire en sorte déjà que la collaboration avec toutes les autres institutions qui sont autour de cette thématique fonctionne bien et qu'ensemble on puisse trouver des solutions pour aller de l'avant.
Donc c'est l'échange qui prime, hein.
C'est l'échange,
le dialogue et savoir s'écouter.
Exactement.
Donc on vous souhaite en tout cas plein
Merci
succès
beaucoup.
À ce nouveau poste. On le rappelle, Natacha Knubel, vous êtes la nouvelle présidente du groupement valaisan des CMS. Excellente fin de journée, au revoir.
Merci à vous aussi, au revoir.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
On va terminer ce mag avec du Berne, comme l'abrègent les journalistes, puisque comme chaque mois, nos correspondants parlementaires nous proposent une grande interview. Ludovic Turin, rebonjour.
Rebonjour Loïc, et oui, vous avez dit, ça vient de Berne. Aujourd'hui, ce qui vient de Berne, c'est un entretien avec une personnalité d'envergure nationale, voire même internationale, qui pèse fortement sur le débat et certaines décisions politiques. Peu de gens le savent, mais le Parlement fédéral a son propre ambassadeur. Claudio Fischer est né au Tessin, il a étudié les sciences politiques et l'administration publique à Lausanne, puis il a travaillé pour plusieurs départements fédéraux. Claudio Fischer est le premier ambassadeur de l'histoire du Parlement. Il raconte comment ce titre a été créé. Claudio Fischer.
Je suis arrivé en 2007 et on s'est rendu compte que les activités internationales du Parlement ont continué à se développer et que les interlocuteurs externes, qui sont notamment les ambassadeurs étrangers en Suisse, il y en a plus que 100, ne savaient pas très bien où était la porte d'entrée pour avoir des contacts officiel avec le Parlement. Alors souvent, ils contactaient le secrétaire général, qui les renvoyait à moi. Mais avec le titre de chef de relations internationales et plurilinguisme, à l'extérieur, on ne connaît pas ça. Et donc, l'idée est venue de me donner ce titre de travail qui permet à l'extérieur de comprendre dans quelle position je suis. Et que je suis donc l'interlocuteur, notamment les ambassadeurs étrangers en Suisse. Et avec ce titre, je suis aussi inclus dans le cercle des ambassadeurs suisses. Donc je participe à la conférence des ambassadeurs qui a lieu chaque année. Et j'entretiens des relations très étroites avec mes collègues dans d'autres départements.
Est-ce que, à l'époque où ce titre vous a été donné, le gouvernement était ouvert à avoir un ambassadeur aussi au Parlement ?
Non, pas du tout. D'ailleurs, c'était toute une histoire. Ça a duré plusieurs années du côté du gouvernement, et je dirais aussi du côté surtout du département des affaires étrangères à l'époque. On n'avait pas tellement envie de donner le titre à quelqu'un qui ne travaillait pas, soit au département ou au moins au niveau gouvernemental. Donc il y a eu un va-et-vient, parce qu'il est clair que le titre ne peut être délivré que par le gouvernement. Et il y avait une requête du Parlement, ça a pris quelques années, et puis en 2013, enfin, ce titre est arrivé.
Et alors aujourd'hui, quel est le rôle de l'ambassadeur du Parlement ? Qu'est-ce que vous faites de vos journées ?
Je gère un secteur avec plus de 50 personnes. Au niveau opérationnel, je travaille étroitement avec les présidents des conseils, qui ont quand même une position particulière, parce que, un peu comme le président de la Confédération ou la présidente, ils représentent aussi le Parlement vis-à-vis de l'extérieur. Là, je les accompagne, je les soutiens dans toutes sortes de choses. Et puis, je suis un peu le visage du Parlement vis-à-vis de l'extérieur, notamment vis-à-vis de mes interlocuteurs principaux, qui sont les ambassadeurs étrangers en Suisse. Donc, je suis extrêmement actif sur le parquet diplomatique. Ça veut dire que mes journées ne se terminent pas forcément à 18h, mais je fais encore des passages à différents événements organisés par les ambassades. C'est une activité extrêmement importante et qui me plaît aussi beaucoup.
Alors, la position du Parlement, elle peut diverger de celle du département fédéral des affaires étrangères sur certains sujets. Est-ce que ça risque pas de donner parfois un message un peu confus à l'étranger si la position du Parlement n'est pas forcément la même que celle du gouvernement?
Bien sûr, mais je crois que c'est un peu le jeu politique, je dirais, à l'exécutif, à législatif. Je dirais que la politique partitique au niveau des relations internationales est moins forte. Mais ce qui me semble important, c'est que le Parlement soit associé, et c'est d'ailleurs le cas depuis l'année 2000 avec la nouvelle Constitution fédérale, soit associé de plus en plus à la politique extérieure, qui reste quand même un domaine du gouvernement, dès le départ, parce qu'à la fin, tout ce qui se discute, tout ce qui se négocie au niveau du gouvernement finira quand même un jour ou l'autre au Parlement. Et donc, le plus tôt on est associé, le plus tôt on peut prendre position, on peut aussi critiquer, on peut essayer de trouver des chemins communs, le mieux c'est. Je crois que le dossier européen est un cas très typique, mais aussi la participation au Conseil de sécurité. Je veux dire, là, le gouvernement a compris qu'il fallait associer le Parlement au plus vite.
Et le Parlement fait de plus en plus de politique extérieure. Il a fortement intensifié ses relations internationales ces dernières années. Claudio Fischer dévoile dans quelle direction.
Ça va un peu dans tous les sens, mais il est clair qu'on est quand même un peu sous la ligne des priorités qui sont celles aussi au niveau gouvernemental. Je veux dire, la politique européenne est bien sûr, depuis plusieurs années, un thème principal. Bien sûr, il y a des positions très différentes au sein aussi du Parlement. En même temps, tout le monde sait qu'il faut trouver une solution, peu importe en quelle direction. Et ensuite, bien sûr, c'est les grands marchés, notamment mondiaux. Et là, la présence de la Suisse dans l'Association européenne de libre-échange, avec tous ces accords qu'on fait au niveau gouvernemental, où il y a un support aussi du Parlement, sont particulièrement importants. Troisième volet, je dirais, c'est certainement la coopération. Et puis, il y a des focus un peu particuliers sur les pays voisins, sur la Grande-Bretagne, depuis la sortie du Brexit. On essaie de fixer un peu des priorités, mais c'est pas toujours simple. Et les pays étrangers sont intéressés, souvent intéressés de travailler avec la Suisse, et là, parfois, il faut faire un peu une sélection aussi.
Et vous pensez que ces relations internationales du Parlement suisse vont continuer à se développer ?
Alors, en tout cas, c'est les signes qu'on a, oui, absolument. On sent aussi de la part des organes officiels du Parlement qui sont en charge de la politique extérieure. Ils nous demandent aussi à nous, à l'administration, de plus en plus. Ils veulent avoir une approche parlementaire plus développée et pas justement ne travailler que sur la base des inputs qu'ils reçoivent du côté gouvernemental. C'est un développement qu'on observe depuis plusieurs années et ça va certainement continuer comme ça. Donc le Parlement est en train de vraiment développer sa politique extérieure.
Depuis que vous êtes à ce poste, quels ont été peut-être les moments forts que vous avez vécu ou que le Parlement a vécu au niveau des relations internationales ?
Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Nous avions eu des visiteurs de très haut niveau. On a accueilli à quelques reprises le Dalai Lama, par exemple, ce qui n'a pas forcément fait plaisir à l'ambassade chinoise. Avec la guerre en Ukraine, nous avons eu un moment fort. J'ai pu participer en 2022 à un voyage à Kiev. Donc, pendant la guerre, c'était la première fois qu'une délégation parlementaire, c'était la présidente du Conseil national de l'époque, Irene Kelin, faisait un voyage dans un pays en guerre. Nous avons eu l'année dernière la vidéo, ce discours vidéo de M. Zelensky, live au palais du Parlement que nous avons organisé. Et la prochaine étape, c'est juste avant la conférence sur la paix, on aura la visite du président du Parlement ukrainien à Berne, donc du 11 au 13 juin. C'est quand même le numéro 2 du pays, ce qui est peut-être pas très connu non plus, mais c'est une visite extrêmement importante. Nous avons été souvent en Ukraine, c'est certainement un pays avec lequel on a toujours des relations parlementaires très étroites, et depuis le début de la guerre, bien sûr, cela s'est intensifié, donc c'est un peu des moments forts, un peu des moments prioritaires actuellement. Là, bien sûr, encore une fois, des pays voisins restent toujours une priorité. Et maintenant, je dirais, tous les pays européens en général, dans le cadre de ces négociations.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Va des rétro, ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, bah, c'est tout de suite beaucoup plus clair.
Si tu es fan d'histoire, tu vas adorer le « Attends, je t'explique » d'aujourd'hui. Si tu aimes bien ta région, remarque aussi, pas besoin d'être méga fan, la question d'aujourd'hui, c'est les armoiries. C'est quoi ? C'est vrai, on en voit plein partout. Bon, ben, pour répondre à cette question, j'ai une personne toute trouvée. Joël Demotz, bonsoir.
Bonsoir Loïc, bonsoir le Chablais, bonsoir tout le monde.
Tu es médiateur culturel au Château de Chillon.
Absolument. Donc moi, je m'occupe de transmettre l'histoire finalement au public. Donc on m'a demandé de venir expliquer qu'est-ce que c'est les armoiries. On peut parler de ça. Bah forcément, bah je suis sauté sur l'occasion.
Ouais. Donc ouais. En plus, c'est une proposition qui vient du château de Chillon. Donc moi, personnellement, je l'ai accepté et je remercie le château de Chillon d'avoir fait une proposition comme ça. Rentrons dans le vif du sujet, puisque t'étais parti, je t'ai coupé la parole, excuse-moi, les armoiries, c'est quoi ?
En fait, les armoiries, c'est tout simplement ce qu'on pourrait dire des dessins, mais pas n'importe quel dessin, c'est des dessins qui représentent des personnes, des villes, ou à peu près n'importe quoi. En fait, pour les armoiries, pour les comprendre, il faut remonter loin dans le Moyen-Âge, il faut remonter à peu près, plus précisément, allez, on va entrer au 11e siècle. Imaginez déjà les premiers chevaliers, les cottes de mailles, etc. qui commencent à se battre les uns les autres. Est-ce que Loïc, est-ce que tu as déjà vu un chevalier en armure ?
J'ai déjà vu un chevalier en armure, oui.
Est-ce que tu arrives à voir sa tête ?
Non.
Eh ben, le problème, c'est qu'il faut commencer gentiment à se repérer sur les champs de bataille. En fait, il faut imaginer à Hastings, en 1066, on a Guillaume le Conquérant qui tente de prendre Normandie. Simplement, un jour, enfin, pendant la bataille, il tombe de cheval. Catastrophe, tout le monde croit qu'il est mort. Et personne ne voyait, il n'avait pas encore de blason, il n'avait pas d'armoirie. Donc, pour se reconnaître, il a dû enlever son casque, que ses soldats le voient. Et du coup, c'est quand même assez dangereux. Donc, au 12e siècle, un petit peu... une centaine d'années après cette bataille, sont apparues les armoiries, finalement les symboles des premiers chevaliers, des premiers seigneurs qui utilisaient ce symbole pour mettre sur leur bouclier, sur leur casque, mais aussi sur leur nuque. Pourquoi sur leur nuque ? Comme ça, le gars qui est derrière vous, il va pas vous planter par derrière en pensant que vous étiez un ennemi. Ce serait quand même assez fâcheux, on va le reconnaître.
Donc en fait, c'est pour éviter, comme on dit aujourd'hui, le tir allié, quoi. C'est pour pas se faire taper, pour pas se faire massacrer par le copain d'à côté.
Alors, c'est une des premières choses pour lesquelles elles ont été créées, oui, tout à fait. Après, au fur et à mesure, les cottes de mailles, donc les armures de l'époque, laissent place à des armures de plate. Et avec une armure de plate, on n'a pas besoin de bouclier pour se battre. Par contre, on a remarqué que les armoiries, c'est vachement chouette quand même, on aime bien les mettre et on peut utiliser ces symboles pour vraiment dire qui on est, qu'est-ce qu'on est. Du coup, va apparaître les héros d'armes, des spécialistes, des aides de camp de ces chevaliers qui vont être capables de lire l'héraldique. Ça vient d'héros d'armes, justement. Et donc, c'est la science de l'héraldique, la science de reconnaître les personnes pour éviter les impairs. Et du coup, tous les nobles, mais aussi, petit à petit, les villes, et même les corporations d'artisans. Par exemple, vous avez une guilde de bouchers, par exemple, vous allez avoir votre armoirie avec un affronté de bœuf, donc une tête de bœuf, et un hachoir. Et ça va être ça pour les villes, pour les universités, bref. Et petit à petit, ça va être aussi le cas des femmes, même si au début c'était plutôt réservé aux hommes, mais à partir du 14e siècle, on a aussi des armoiries féminines qui existent. Pas de discrimination dans les armoiries.
Ok, d'accord, mais c'est impressionnant. En fait, l'héraldique, tu disais tout à l'heure, moi, il y a un épisode de Game of Thrones qui me vient à l'esprit où justement, ils ont l'habitude de dire ils ont l'habitude de décrire le dessin avec des mots très précis, parce que c'est des mots très précis, et puis là on va se retrouver avec finalement le nom de famille ou le clan à qui appartient cette armoirie.
Oui, l'héraldique c'est justement la façon de le dire, parce que finalement dire c'est à peu près c'est un drapeau, s'il y a du vert, il y a du rouge, en fait on va vraiment utiliser des mots très techniques. Coupé, ça veut dire que c'est séparé en haut en bas, parti c'est à gauche à droite, vous allez avoir toutes les couleurs ou des noms précis, par exemple le bleu devient l'azur, le vert ça devient le sinople, et le pourpre c'est la classe. C'est le violet. Et certaines armoiries, en fait, il y a les métaux, donc l'or et l'argent, et il y a tous les émaux, donc différentes couleurs. Donc il y a vraiment des mots très très spécifiques. Et si votre lion, il a les pattes l'une après l'autre, ou alors rassemblées comme s'il allait sauter, vous n'allez pas décrire votre lion de la même manière. Alors attention, c'est une science très très précise, et ça, je pense qu'il faut... une ou deux bonnes heures, donc on va pas faire que de l'héraldique, sinon on est encore là demain matin.
Écoute, je te propose qu'on fasse déjà une petite pause musicale. Surtout que j'ai essayé de chercher la chanson la plus médiévale que je connaisse et que je puisse diffuser sur Radio Chablais. C'est Jean-Jacques Goldman qui avait sorti un album de musique celtique et médiévale à l'époque, Tourne les Villons.
Radio Chablais, programme de nuit.
Va des rétro, ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, c'est tout de suite beaucoup plus clair.
Les armoiries, c'est le symbole d'une personne noble, d'une ville, d'un royaume, mais aussi de corporations comme celle des bouchers ou encore les universités. Les dames auront des armoiries un petit peu plus tardivement que les hommes, mais elles en auront quand même. Et à la base, ces armoiries servaient à ne pas se faire massacrer par ses propres copains sur un champ de bataille, mais finalement, ça sert à s'identifier, à se mettre en avant pour se faire connaître et se faire reconnaître. D'ailleurs, l'héraldique, c'est ce qui sert, c'est la science de la lecture exacte des armoiries. Joël Demotte, ce médiateur culturel au château de Chillon, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu des armoiries locales ?
Alors, on va absolument parler des armoiries locales. Et puis, comme on est à Radio Chablais, on va tout simplement parler des armoiries du Chablais. Car oui, le Chablais a eu des armoiries, mais elles sont un petit peu oubliées. Alors, je vais d'abord vous le dire en termes, on va dire, héraldiques, vraiment dans la science des armoiries. Et après, on va voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire finalement. Donc, les armoiries du Chablais, c'est d'argent billetté de sable à lion de sable rampant. Alors comme ça, ça fait très noble. Et en fait, si on pense qu'est-ce que c'est effectivement assez la classe. C'est un lion noir sur un fond blanc, mais il est billetté. Donc ça veut dire qu'il y a des petits rectangles noirs sur ce fond, ce qui en fait une armoirie qui est quand même assez...
Elle est classe.
Elle est assez classe.
Moi, je la trouve magnifique, cette armoirie. Je la trouve hyper belle. Et il y a un truc, c'est que c'est un lion et non pas un griffon. Il y a beaucoup de gens qui pensent, dans la culture populaire ou urbaine, qui pensent que c'est un griffon, mais c'est un lion de sable.
Exactement, c'est un lion de sable. En fait, les lions et les aigles sont parmi les animaux les plus représentés, en fait, parce qu'une armoirie, attention, il ne faut pas être... Vous croyez que c'était que le bouclier ? Non, ce n'est pas si simple. C'est aussi tout ce qu'il y a autour. Donc il y a votre bouclier avec votre dessin et il y a après les tenants, les soutiens. Donc il y en a tout plein et attention, ici rien n'est fait au hasard. On va prendre une armoirie qui est assez sympa au château de Chillon.
Oui.
Alors attention, c'est une armoirie bernoise, c'est l'armoirie. Ouais, oui, je sais. C'est l'armoirie du canton de Berne avec l'ours, etc. Et de côté il y a deux ours. Mais si vous regardez cette armoirie, en fait sur le dessus il y a une couronne et comme cimier dans cette couronne il y a un aigle bicéphale, donc un aigle à deux têtes.
Qui était le symbole des Habsbourg pourtant.
Exactement, en fait, c'était l'aigle impérial. En fait, c'était la façon pour la ville de Berne de dire « Nous avons le soutien, la protection directe de l'empereur du Saint-Empire romain germanique. » Donc, c'était vraiment une façon de dire « Nous sommes extrêmement nobles. »
Alors que pourtant, ils s'étaient battus contre à la base.
Ils étaient battus contre, mais là, ouais, c'est beaucoup plus tard. Donc, finalement, les alliances, ça change. Une autre chose dans les soutiens que j'aime bien, on va remonter assez au nord. En fait, on va remonter sur les îles britanniques. Alors, les armoiries de l'Écosse, on va pas en parler, c'est un lion aussi, c'est un lion de gueule, enfin c'est d'or avec un lion de gueule, donc c'est un lion rouge sur un fond jaune, c'est très très sympa. Mais ce qui est très rigolo, c'est les soutiens. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'ils ont comme soutien à l'Écosse?
Absolument pas.
C'est l'animal national de l'Écosse.
Je saurais pas dire.
C'est la licorne. Donc ils ont deux licornes qui tiennent les armoiries. Et si on regarde les armoiries générales de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, il y a un lion d'un côté représentant l'Angleterre et de l'autre côté
La licorne
de l'Écosse.
Juste...
Donc ça veut dire que en fait les soutiens tout a vraiment un petit symbole. En fait, rien n'est vraiment fait au hasard.
Absolument pas. C'est même l'inverse. Tout est extrêmement précis.
Et on peut apprendre beaucoup de choses. Par exemple, en Suisse, on va retourner un petit peu en Suisse, il y a une série de communes qui forment un petit chemin. Et sur chacune de des armoiries de ces communes, il y a une coquille Saint-Jacques. Est-ce que tu as une idée pourquoi?
Le chemin de Saint-Jacques ?
Exactement, ce sont toutes des communes qui sont sur le chemin de Saint-Jacques. Donc on va dire, on va pouvoir étudier à travers juste des symboles qu'on trouve aussi dans les armoiriers, donc ces livres avec plein d'armoiries dedans, on va pouvoir comprendre des phénomènes beaucoup plus globaux. Et en fait, les armoiries, en fait, sont vraiment, on trouve des choses extrêmement variées. On trouve des coquilles Saint-Jacques, on trouve des animaux, en fait, on trouve à peu près n'importe
quoi. Des croissants de lune dans la région, il y en a deux, trois.
Il y en a beaucoup, ça peut être aussi symbole de quelqu'un qui a été largement dans l'Est. On trouve, par exemple, comme sur les armoiries de la ville de Montaigne, j'ai quand même été les regarder.
Ah oui, s'il te plaît.
Alors, l'armoirie de Montaigne, c'est d'or, donc jaune, chêne de Sinople, donc un chêne vert, sur un mont à trois couteaux. Donc en fait, à trois courteaux, pardon. C'est une sorte de petite montagne avec trois côtés. Donc c'est une armoirie quand même qui est assez jolie. Donc c'est assez sympathique. Donc on trouve vraiment à peu près n'importe quoi sur ces différentes armoiries. C'est assez fabuleux.
Ouais, d'ailleurs, moi, je suis surpris qu'avec une armoirie pareille, et je suis montésan, donc attention que personne prenne mal ce que je vais dire, mais moi, je trouve que les montésans, on devrait les appeler les glands.
Ça pourrait marcher.
Qu'est-ce qui habite dans les chênes? Je suis désolé, on mériterait ce surnom en plus quelque part avec notre carnaval.
Et en plus, c'est même pas des glands d'or, quoi. C'est aussi des glands de Sinople. Ils sont bas. Il y en a certains qui sont, on les met en valeur, mais là même pas. J'étais un peu déçu.
Et certains potes, c'est des glandus. Mais sinon, on va revenir un petit peu plus précisément aux armoiries. Qu'est-ce qu'on va avoir comme, est-ce qu'on va avoir une armoirie très particulière ici dans la région qui va détonner par rapport aux autres?
Alors, dans la région, il y a une armoirie qu'on retrouve beaucoup, enfin, un symbole qu'on retrouve beaucoup, qui se retrouve à la fois sur les armoiries d'Aigle, à l'Aigle justement, et sur les armoiries aussi de Villeneuve. C'est aussi un aigle, pas de la même couleur. En fait, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup ces armoiries d'Aigle? En fait, c'est la faute aux Savoies. Donc les Savoies qui ont justement fondé le château de Chillon. Le père de Pierre II, qui était un des comtes les plus importants, on l'appelait Thomas Ier le Gibelin. Ça vous dit sûrement pas grand-chose, mais c'est pas grave. En fait, c'est qu'il était quelqu'un qui aimait beaucoup l'empereur de Germanie, du Saint-Empire romain germanique, et qui avait comme symbole
l'aigle bicéphale.
Exactement, l'aigle tout court. L'aigle tout court, pas l'aigle impérial. Et du coup, c'est justement Thomas qui a donné sa franchise, enfin qui a refondé, si on veut, la ville de Villeneuve. Et du coup, on peut voir, ah, effectivement, il y a l'aigle, et beaucoup dans le Chablais, on voit de ces aigles, potentiellement, du coup, liés à cette présence des Savoies. Et justement, les armoiries du Chablais, dont on parlait avant, en fait, Pierre II, justement, le fils de Thomas Ier, avait comme symbole un lion. Donc finalement, sous Pierre II, justement, que le Chablais est entré dans la famille de Savoie. Coïncidence ? Peut-être, ou peut-être pas tant que ça,
non,
finalement.
Peut-être pas tant que ça, non, effectivement, à l'époque, ça se discutait à grands coups d'épée, faut pas déconner. Ouais. Est-ce que tu aurais un dernier petit détail croustillant, parce que malheureusement, on arrive à la fin de l'interview.
Ah, ça va vite.
Ça va très vite. Est-ce que tu aurais un petit dernier détail à partager avec nous, un petit fun fact?
J'ai plutôt une petite énigme pour toi. Je vais te décrire une armoirie et tu vas devoir découvrir laquelle c'est. Et peut-être que quelqu'un dans les voitures pourra deviner aussi qu'est-ce que c'est. Attention, t'es prêt?
Oui.
C'est une armoirie partie d'argent et de gueule, ornée de 13 étoiles l'une dans l'autre.
Le drapeau du Valais.
Exactement, c'est le drapeau
parti, parce que c'est à la verticale.
Exactement, d'argent, c'est le blanc, de gueule, c'est le rouge, avec les 13 étoiles l'une dans l'autre pour dire que finalement le rouge est dans le blanc et le blanc est dans le rouge et celle du milieu, c'est moitié-moitié.
Oh mais c'est magnifique. Maintenant, non, c'est vachement plus. Est-ce que tu peux nous faire celle du Pays de Vaud?
Le Pays de Vaud, c'est assez nul en vrai. Les armoiries du Pays de Vaud, je suis en plus vaudois.
On est obligé.
En fait, c'est d'argent coupé de Sinople. Donc la devise, ça, les devises sur les armoiries, c'est quelque chose qui vient de la Révolution française. Donc à un moment, la science de l'héraldique était un petit peu en baisse. Donc tout simplement, on pourrait dire c'est d'argent coupé de Sinople. C'est un peu simple, mais ça marche.
Mais il y a quand même un super Liberté et Patrie écrit dessus. Merci infiniment, Joël Demotte. Je rappelle que tu es médiateur culturel, tu travailles au Château de Chillon. C'était sur une proposition du Château de Chillon que nous avons parlé d'armoirie. Ça a franchement valu la peine. Merci infiniment. Je te souhaite une excellente soirée, puis potentiellement à bientôt, non?
Alors merci beaucoup, ce serait un plaisir, et puis bonne soirée à tous.
Bonne nuit sur Radio Chablais. C'est chaud, c'est
chaud. Sur le grill.
Oh, Lovely Chablais, émergence du tourisme à travers l'art. C'est la nouvelle exposition que vous propose l'espace Graffenried jusqu'au 8 septembre prochain. Maëva Besse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la curatrice de cette exposition. Déjà, d'où est venue l'inspiration de cette exposition?
Alors, l'idée de cette exposition, elle vient du constat que l'essor du tourisme dans le Chablais au tournant du XXe siècle, et plus généralement en Suisse et dans les Alpes, se ressent clairement à travers l'art, et qu'il prend autant d'ampleur d'ailleurs grâce à lui et sa diffusion.
Alors justement, hein, on voit ce moment qu'on qualifierait, pour le profane que je suis, des romantiques. On découvre aussi tous ces paysages qui ont, entre guillemets, vendu la Suisse grâce aux artistes à l'étranger, tous ces magnifiques tableaux. Et puis ça se ressent aussi dans les affiches, parce qu'il y a de très nombreuses affiches que vous présentez ici, qui dépeignent notre paysage à l'époque. J'ai l'impression, comme on dirait, avec tout le respect que j'ai pour mes amis photographes, qu'il y avait quand même un travail de fond qui était assez incroyable déjà à l'époque.
Oui, alors on a vraiment une diffusion massive d'affiches artistiques, hein, affiches touristiques, mais affiches artistiques, de photographies également, de peintures, de gravures, d'ouvrages, même de spectacles. Et c'est vraiment cette diffusion en fait qui va permettre à la région en fait de se développer de façon autant spectaculaire. Et du coup, on a divisé l'exposition en trois chapitres, à savoir transport, divertissement et hébergement, qui correspondent à trois facteurs du développement et de l'ampleur touristique d'une région. Et du coup, dans ces trois chapitres, c'est vraiment ce développement entre 1850 et 1950 qui est mis en avant, avec par exemple l'industrialisation massive liée notamment à l'apparition de chemins de fer, ou le développement de la montagne comme lieu de contemplation, mais aussi de sport et de loisirs, ou encore l'apparition des hébergements médico-sanitaires.
Toutes ces phases qui ont permis à nos régions justement de se développer, d'évoluer et de passer d'un monde purement rural à un monde touristique, quand on voit l'exposition, on a l'impression que ça s'est fait assez naturellement. Il n'y a pas eu d'opposition, puis les gens se sont dit, ben tiens, autant les touristes se sont adaptés aux gens qu'ils rencontraient sur place que les gens, les ruraux, se sont dit, tiens, ils ont l'air sympas ces gens-là.
Alors je pense que c'est pas aussi simple que ça, mais ça s'est fait naturellement dans le sens où en fait tout est lié. Donc l'apparition des chemins de fer va développer la mobilité, donc va développer une région, donc va développer le tourisme. Du coup, il y aura l'art qui va diffuser cette image de la région. Et du coup, le tourisme devient de plus en plus important par la diffusion de l'art. Enfin, tout est vraiment connecté. Et dans ce sens, ça s'est fait naturellement. Après, je suis pas sûre qu'on puisse dire que tout s'est fait de manière fluide. Après, les locaux étaient conscients aussi des apports financiers, des apports économiques qu'offraient les touristes.
C'est chaud. Sur le grill. Oh,
bonne nuit sur Radio Chablais.
C'est chaud. Sur le grill.
Alors justement, ce développement touristique, il a pu amener, vous l'avez dit, les trains, il a pu faire que, par exemple, les matériaux de montagne étaient plus facilement livrés dans un sens et dans l'autre. Les produits aussi de l'alpage, de la montagne et même des régions périphériques étaient plus facilement accessibles à la ville. Et donc, ça a permis aussi, on va dire, aux urbains et aux touristes de découvrir aussi, au-delà d'une gastronomie, un savoir-faire.
Oui, un savoir-faire, et puis il y a vraiment des offres spécifiques qui se sont créées en fonction des régions. Donc dans le Chablais, il y a évidemment la montagne, la contemplation de la nature, le sport, les loisirs, mais il y a aussi justement cette présence d'hébergements médico-sanitaires qui est vraiment un savoir-faire, si on peut le dire, assez propre à cette région, à l'arc lémanique également.
Et qui a créé des liens, parce qu'on le voit typiquement avec les uns, on le voit avec d'autres endroits, où après c'est des gens qui sont venus ici, gardent un souvenir de la région, alors de la contemplation, mais aussi des amitiés et autres, et des gens qui vont faire perdurer cet ancrage touristique, cet ancrage local.
Oui, alors là, dans les sources qu'on a traitées, c'est vrai qu'on voit plusieurs familles, notamment d'Anglais, qui reviennent un peu chaque année et qui perdurent justement cette tradition du tourisme en Suisse et dans les Alpes.
Puis alors, dernière chose, pour revenir à la base de la discussion et de l'interview, dans la première partie, se dire que voilà, toutes ces magnifiques œuvres, ces magnifiques tableaux, ces photos qu'on voit ici dans l'exposition, c'est aussi des mêmes tableaux, des mêmes photos qui ont été ensuite exportées un peu plus loin et qui ont permis à la Suisse et à nos Alpes, à nos montagnes, d'exister ailleurs et de donner des envies d'ailleurs à d'autres gens.
Oui, alors c'est vraiment intéressant le caractère diffusable, si je peux le dire, de l'art et des médiums artistiques qui ont été choisis par ces artistes, notamment l'affiche, la carte postale, la gravure. C'est vraiment des médiums qui sont choisis par leur qualité en fait de diffusion, qu'ils s'exportent vraiment à l'étranger. Et évidemment, l'image qu'on a de la Suisse aujourd'hui, enfin on parle du Chablais, mais plus généralement de la Suisse et des Alpes, elle a été créée Elle a été créée par les artistes au tournant du XXe siècle, à ce moment-là, en plein essor du tourisme, et elle perdure.
Qui est-ce qu'on découvre ici? Parce qu'on connaît tous les grands dont on a toujours entendu parler, Caspar David Friedrich, on a Audelaire, on a Anker, tout ça. Qu'est-ce qu'on présente ici, peut-être qu'on aurait envie encore de découvrir?
Alors, on a choisi de pas axer cette exposition sur la peinture. Donc, vous avez quelques œuvres, notamment d'Albert Gosse ou de Frédéric Rouge, des artistes importants pour la région. Mais on s'est beaucoup concentré sur les affiches, les cartes postales, les photographies. Donc, avec des artistes peut-être moins connus, mais qui ont joué un rôle important justement dans ces médiums-là. Notamment Émile Gosse, Martin Paikert, qui lui est plus connu, Rodolphe Michaud, enfin d'autres artistes un peu moins connus qu'un Audelaire ou qu'un Friedrich, comme vous le disiez, là où on est un peu après cette période.
Mais la dernière chose, on rappelle qu'il y a donc des événements toujours organisés en parallèle. Contes et légendes des Alpes avec les commentaires par Alix Noble-Burnand, par exemple, le 6 juin. Des visites After Work du 27 juin au 29 août à 18h en collaboration avec l'Office d'Tourisme d'Aigle. Un atelier de cartes postales avec Natacha de Santignac, c'est tout public, le 15 août à 14h. Et puis, la visite brunch finissage des expositions le 8 septembre à 10h30. Tout ça sur inscription, bien sûr. Toutes les infos, espace graffenried.ch. Merci beaucoup.
Merci. C'est chaud.
Sur le grill. Oh,
retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Radio Chablais.
Le nombril du monde. Bienvenue chez nous. C'est plus grand que ce que je croyais.
Le nombril du monde. Une dernière fois. Faudrait que j'y revienne. Bon, en même temps, j'habite la commune. J'habite à Colombey, moi. Je suis montésan, mais bon, alors, par contre, je suis allé habiter à la limite, hein, le plus proche possible de Monté. Mais mon très cher guide, Emmanuel, on doit se quitter. Avant de ça, moi, je veux quand même savoir pourquoi, dans votre petit cœur à vous, Colombey, c'est effectivement le nombril du monde.
Mais parce que j'y suis né, j'ai mes racines, j'ai ma famille, j'ai mes amis qui y sont. J'aime ce village, j'aime cette commune, j'y ai consacré du temps, j'y consacre toujours un petit peu de temps, mais de moins en moins, et puis j'y vois que les beaux côtés, c'est ça. Je dirais que l'amour de ma commune me rend un petit peu aveugle s'il y a des aspects négatifs, mais il y en a très peu de toute façon.
Mais c'est beau ça de dire, bah voilà, en fin de compte, oui, alors, des aspects négatifs, il y en a très peu, c'est pas grave, mais c'est bien de voir que les aspects positifs, en plus vous m'avez montré des choses superbes de ma commune à moi.
Alors, il y a des choses superbes, et puis, de nouveau, est-ce qu'on est amateur de verre à moitié plein ou à moitié vide? Personnellement, je suis plutôt positif de nature, et puis, j'aime voir les belles choses, et c'est les choses que je regarde. Je ne suis pas aveugle aux choses à améliorer, mais voilà. Si on doit s'attacher aux choses qui sont négatives, on ne va pas loin dans la vie.
C'est pas faux du tout. Moi, je voulais juste vous poser une question. On dit Colombey roux et Colombey roude, mais est-ce que les Colombey roux ont un sobriquet?
Je ne crois pas. Non, je ne connais pas de sobriquet pour les Colombey roux.
Pas besoin?
Non, on est parfait, non, pas besoin.
Et ben voilà, ils sont parfaits, donc il n'y a plus rien à dire. Vous retrouvez ça, bien sûr, comme d'habitude, dans les replays de Radio Chablais, cette semaine du Nombril du Monde à Colombey.
Radio Chablais.
Le Nombril du Monde. Radio Chablais, programme de nuit.
La question. La question existentielle.
Qui je suis-je? Où je vais-je? Dans quelle étagère?
Sur Radio Chablais.
Alors aujourd'hui, on va parler de la loi de Murphy.
C'est Murphy qui l'a dit. C'est Murphy qui l'a dit.
Alors, vous le savez, depuis le début, je suis un livre ouvert. Je vous raconte ma vie souvent. Et aujourd'hui n'est pas une exception. Il m'est arrivé galère sur galère mardi dernier. Alors, pour vous raconter très vite fait, je roulais un peu vite pour être à l'heure, je me suis fait arrêter par les flics, donc ça m'a mis en retard, et plus loin sur la route, ils ont décidé de faire des travaux, et donc gros bouchon de plus de 30 minutes, résultat, je suis arrivée en retard, et comme un malheur n'arrive pas seul, enfin une galère n'arrive jamais seule, et ben je me suis payée une jolie migraine. Tout ça, ça m'a amené à me poser la question existentielle suivante. D'où ça vient cette loi de Murphy? Pourquoi Murphy nous a maudits avec sa théorie? Alors pour celles et ceux qui prennent le train en route, la loi de Murphy, c'est un adage qui dit qu'une catastrophe ou une galère n'arrive jamais seule. Eh bien, figurez-vous que quand j'ai fait mes petites recherches pour comprendre l'origine de ce dicton, et par la même occasion pester contre Murphy, eh bien j'ai été surprise de constater que la loi de Murphy, eh bien c'est pas exactement ça. Déjà, pour commencer, c'est qui ce Murphy? En fait, Il s'agit de Edward Murphy, qui était un ingénieur de l'US Air Force. Et en gros, il faisait des tests sur un chariot propulsé par une fusée, et son assistant a un peu chié dans l'école en installant de travers les instruments de mesure de l'accélération du chariot. Bref, il a tout fait de travers. Du coup, Murphy, il aurait dit par frustration, s'il y a un moyen de faire des erreurs et de foirer un truc, eh bien c'est ce gars, en désignant son assistant, qui le trouvera et qui le fera. Et cette phrase a par la suite été simplifiée à tout ce qui est susceptible d'aller mal ira mal. Mais effectivement, c'est un peu plus condensé, on va dire. En fait, je me suis rendu compte que cet adage, c'est plutôt un principe de précaution où on va essayer d'imaginer les pires scénarios possibles pour pouvoir les prévenir et les éviter, en fait. C'est pas du tout un principe de pessimiste qui consiste à dire qu'une galère n'arrive jamais seule. Et j'ai été assez choquée de me rendre compte de ça aussi tard dans ma vie. Ce qui veut dire qu'on est quand même beaucoup à être des gros pessimistes quand même. Je dis ça, je dis rien. Bref, arrêtons d'être pessimistes un instant et considérons notre verre à moitié plein parce que c'est le meilleur moyen d'étancher sa soif. Voilà, voilà.
La question existentielle.
Qui je suis-je? Où je vais-je? Dans quelle étagère?
Sur Radio Chablais. Bonne nuit sur Radio Chablais.
La question.
Pardon?
Tu dis quoi?
Sur Radio Chablais.
Alors, dans la première partie de cette émission, on a parlé de la loi de Murphy et on a vu qu'en vérité, à la base, ça voulait pas du tout dire un malheur n'arrive jamais seul. C'était plutôt un principe de précaution afin de prévenir tous les scénarios catastrophes qui pourraient ou pas arriver. Et ça m'a donné envie de décortiquer l'expression du jour. Un malheur n'arrive jamais seul, ce que je pensais être la définition de la loi de Murphy, mais qui en fait est un adage qui date du Moyen-Âge. Possiblement du poète Ruth Boeuf dans son poème La Complainte. La Complainte qui a d'ailleurs été reprise et interprétée par Léo Ferré en 1955. Je pose ça là. Moi perso, l'expression du même style qui me parle le plus, c'est jamais deux sans trois. Mais bon, c'est du pareil au même. En fait, l'explication de ce phénomène, hein, un malheur n'arrive jamais seul, ça se trouve dans la psychologie. Évidemment, on va pas en faire de bon matin comme ça, parce que c'est quand même vendredi matin, en plus c'est veille de week-end. Mais en gros, l'état d'esprit dans lequel on se trouve, c'est un peu comme les lunettes à travers lesquelles on voit la vie. Par exemple, si le verre des lunettes, si c'est gris, on ne voit que les choses grises de la vie. Et si les lunettes sont roses, on chante à tue-tête du Edith Piaf.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
Et ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que la chance attire la chance et la poisse appelle la poisse. C'est-à-dire, on dit un malheur n'arrive jamais seul, mais un bonheur n'arrive jamais seul non plus. Tout dépend de comment on choisit de réagir face à une situation. Moi, j'ai choisi, par exemple, d'accepter le fait que je me suis fait choper en excès de vitesse et je le prends comme une leçon parce que j'aurais pu faire un grave accident, j'aurais pu jamais arriver à destination et du coup, l'amende, même si un peu salée quand même, elle est justifiée et donc je l'accepte sans trop pester. Mieux vaut arriver en retard que pas arriver du tout, les amis. Gardez bien ça en tête. Donc, soyez toujours prudents sur les routes. Ne faites pas comme moi, respectez les limitations de vitesse. Mais surtout, n'oubliez pas de mettre vos lunettes teintées de rose.
La question.
Pardon ?
Tu dis quoi ?
Sur Radio Chablais. Bonne nuit sur Radio Chablais.
Voici les titres du journal.
Les instruments à vent vont prendre possession des rues agonoises demain. La 6e édition de l'Amicale des fanfares du district de Saint-Maurice proposera concerts, défilés et aussi compétitions. Deux étudiants chablaisiens s'associent à la FOVAM pour créer une chanson solidaire, une initiative afin d'illustrer la force du vivre ensemble. Le musée Yéniche à Vevey se modernise. Le public peut désormais profiter de plus de 300 œuvres en ligne. Une sélection vouée à s'agrandir ces prochaines années. Et en hockey sur glace, Lausanne est dos au mur. Zurich s'est imposé 3-0 hier lors de l'acte 5 de la finale. Mais les Lions de Malais se concentrent déjà sur le ou les matchs à venir.
Le temps sera en partie ensoleillé pour ce vendredi. Assez ensoleillé pour demain et très nuageux pour dimanche. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Valérie Favre. Bonjour Valérie.
Bonjour Axel. Bon, bonjour à dire bonjour Alex, mais bonjour Axel.
Oui, c'est voilà. Moi-même.
Bonjour Axel, bonjour à tous. Les rues agonoises seront rythmées ce week-end par des instruments à vent. La sixième édition de l'Amicale des fanfares du district de Saint-Maurice se déroule demain. Au programme, concerts, défilés, mais aussi compétitions. Les six entités invitées que sont Massonger, Saint-Maurice, Vernaya, Salvan, Collonges et Doréna se battront pour le challenge de l'Amicale. Un événement local qui doit permettre de perpétrer les liens musicaux qui deviennent rares entre fanfares du même district, comme le souligne Jonathan Richard, président du comité d'organisation.
C'était le but, c'est qu'on se rendait compte qu'en fait, qu'on se voyait que lors du Festival des musiques du Bas-Valais et qu'il y avait tellement de fanfares, enfin il y a 23 ou 24 fanfares qui se déplacent dans une commune. On n'avait pas l'occasion de se croiser les fanfares du district. Alors on s'est dit, mettons en place un événement plutôt local. Et comme ça, on est vraiment entre fanfares du district parce qu'on a des collaborations qui se déroulent dans le cadre de camps musicaux aussi. Donc pour perpétrer un peu ces liens musicaux et amicaux, on a décidé de mettre cette amicale en place.
L'occasion également de s'entraîner en petit comité en vue du Festival des musiques du Bas-Valais qui se tiendra à Monthey à la fin du mois de mai. Un événement majeur selon Jonathan Richard.
Oui, alors sauf erreur, la Fédération du Bas-Valais est la plus grande fédération du Valais puisqu'on a 23 sociétés ou 24. C'est vraiment le point final de la saison musicale puisque après c'est les vacances d'été. Donc toutes les fanfares ont fait leur concert annuel, elles sont prêtes et elles sont là pour vraiment venir se représenter dans ce concours qui est le défilé et le concours devant jury en salle lors du Festival du Bas-Valais.
Des propos recueillis par Ludovic Turin.
L'école de commerce et de culture générale de Monthey et la FOVAM unissent leurs voix dans une chanson.
Deux étudiants, le gingolais Gapin Fay et le montaisan Noé Delitro, se sont engagés aux côtés de la Fondation Valaisanne en faveur des personnes avec une déficience intellectuelle. Leur objectif, mener à bien un projet social dans le cadre de leur cursus scolaire. Après plusieurs mois de travail et de collaboration, un titre musical est né, enregistré avec la participation de résidentes de l'institution montaisanne. Les explications de la journée d'enregistrement de la chanson par l'un des deux porteurs du projet, Gabin Fay.
C'était sur une journée, ça a duré à peu près 4 heures. Et au début, on a fait chanter les résidents. On voulait les faire chanter tous ensemble et c'était un peu compliqué parce qu'au studio, c'est pas la même chose qu'à l'entraînement. Donc la chanson, c'était... quand on s'entraînait, il y avait la chanson, puis nous, on chantait avec eux. Mais là, au studio, ils étaient un peu tout seuls face au micro et c'était vraiment dur pour eux de se mettre tous ensemble sur le même temps et de chanter en un seul groupe. Donc on les a fait chanter un par un... les résidents, Jocelyne a très bien travaillé, a pu choisir les moments qui étaient le mieux, où on entendait le mieux les paroles et tout ça. Et ensuite, c'est les choristes de l'ECG qui sont passés au micro. Et pendant qu'eux, ils chantaient, les résidents de la FOVAM étaient là, ils pouvaient assister à l'enregistrement ou bien sortir de la pièce. Et c'est à ce moment-là qu'on a pu voir des contacts entre les deux parties. Et c'est là qu'on s'est dit que notre projet était réussi parce qu'on a réussi à rassembler vraiment ces deux parties et qu'on a réussi à avoir du contact et des contacts assez cool.
Des propos recueillis par Julie Gay. Confronté aux défis financiers du système de santé suisse, l'hôpital du Valais est contraint de prendre des mesures pour retrouver un équilibre financier. Dans un contexte d'austérité, le conseil d'administration a décidé d'instaurer une cellule d'encadrement et de soutien en interne. Une cellule dirigée par le directeur général qui doit permettre de mettre en place des conditions favorisant un retour à l'équilibre financier, et ce d'ici 2026. Le communiqué transmis ce matin n'indique toutefois pas le type de mesures que l'hôpital du Valais va devoir prendre. L'établissement indique que le plan d'action sera présenté prochainement. On reste en Valais puisque la Valais Film Commission a officiellement rejoint l'association suisse. C'est lors de l'Assemblée Générale de cette dernière hier soir à Lucerne que l'actuel responsable de l'entité valaisanne, Tristan Albrecht, a été accueilli comme nouveau membre du comité national. Avec cette adhésion, le canton renforce sa présence et son influence auprès des milieux de l'industrie cinématographique du pays. Il favorise également la visibilité de la commission sur les différents marchés à l'étranger.
À Vevey, le musée Jenisch se modernise.
Il propose désormais au public de profiter de plus de 300 œuvres en ligne. Il s'agit notamment de tableaux déjà présentés lors d'expositions, ainsi que des chefs-d'œuvre. Ceci afin de permettre à tout un chacun de profiter des différentes collections que l'établissement conserve, mais aussi des informations essentielles à chaque œuvre. Et la sélection devrait s'agrandir ces prochaines années, comme l'explique Anne Deltour, conservatrice d'intérim au musée Jenisch.
Alors la collection, c'est plus de 50 000 œuvres, donc ça va prendre quelques années, mais on va vraiment se concentrer sur les pièces majeures, les pièces qui seront dans les expositions, puis petit à petit, le corpus va s'agrandir à plusieurs milliers de pièces, ça c'est certain. Mais voilà, on a 40 000 estampes, plus de 10 000 dessins, donc on va essayer de faire au mieux, et puis il y a aussi le problème du droit d'auteur, donc il faut aussi, pour les artistes contemporains, avoir un peu plus de démarches pour être sûr qu'on puisse diffuser leurs œuvres sur Internet.
Des propos recueillis par Léa Journeau. Une commission du Grand Conseil vaudois veut soutenir les milieux agricoles. Elle a accepté un amendement instaurant un crédit cadre de 80 millions de francs pour les années 2023 à 2027. Le but est de financer les subventions cantonales en faveur des entreprises d'amélioration foncière agricole. Par ailleurs, les viticulteurs pourraient en profiter pour la première fois. Le Grand Conseil est invité à entrer en matière. La justice militaire estime que la mort d'un soldat mardi sur la place d'armes de Bremgarten, dans le canton d'Argovie, est un suicide selon les premières constatations. Jusqu'ici, il était question d'un tir accidentel lors d'un exercice de l'école de recrues de ravitaillement 45. La victime, âgée de 22 ans, a été touchée à la tête par un tir alors qu'elle se trouvait dans un véhicule militaire. Elle est décédée à l'hôpital. Une enquête de la justice militaire est en cours.
La Banque nationale suisse a tenu son assemblée générale ce matin à Berne.
La BNS a dévoilé que le premier trimestre avait été très profitable. La banque a dégagé un bénéfice net de 58 milliards de francs, alors qu'elle avait bouclé 2023 sur une perte de 3 milliards. Mais le début de l'assemblée a été perturbé. Des actionnaires et des activistes ont manifesté devant la salle de réunion. Ils veulent attirer l'attention sur les investissements problématiques de la BNS. Les explications de Guillaume Durin, membre du collectif Break Free.
La BNS, avec de l'argent public, investit dans des entreprises à travers le monde et elle a des lignes directrices, la BNS, parce qu'elle s'estime institution responsable, avec socialement responsable. Parmi ces lignes directrices, il y a le fait de ne pas investir dans les entreprises qui commettent des dommages majeurs à l'environnement. Elle suit aussi les valeurs suisses. Il se trouve qu'elle investit aussi dans des entreprises comme Shell, Total, Exxon, qui sont des entreprises du fracking, qui mettent en place l'exploitation de gaz et de pétrole de schiste, qui est une façon d'exploiter le pétrole et le gaz qui a absolument ravageuse. Là, on a des personnes d'Argentine et du peuple Mapuche en Patagonie qui viennent dire que depuis 10 ans, ils ont enduré 400 tremblements de terre, c'est-à-dire des conséquences sociales catastrophiques. C'est aussi des bassins de décantation extrêmement pollués. Il y a 4 grandes rivières qui sont polluées là-bas aux métaux lourds.
Des propos recueillis par notre correspondante parlementaire Marie Vuillemier. Les actionnaires pour le climat et les activistes demandent à la BNS d'abandonner ses investissements dans les énergies fossiles. Mais la présidente du conseil de banque a rappelé lors de l'assemblée de la BNS que la BNS ne fait pas de politique sociale ou climatique. L'institut d'émission prend des décisions de politique monétaire dans l'intérêt du pays. En hockey sur glace, Lausanne est dos au mur. Zurich s'est imposé 3-0 hier soir lors de l'acte 5 de la finale. Ainsi, le LHC n'a plus le droit à l'erreur s'il veut remporter son premier titre. C'est le deuxième tiers qui a été fatal aux Lausannois. Alors qu'ils auraient pu marquer plusieurs buts au début du match, ils ont été totalement muselés par les Zurichois. Les Lions de Malène n'ont comptabilisé qu'un seul tir cadré en 20 minutes et surtout, ils ont encaissé 2 buts en 51 secondes. Et ce n'est pas la première fois que les EST Lions se montrent aussi fort en deuxième période. Damien Ria, attaquant du LHC.
Ouais, bah ça a été leur force toute la saison. Il leur faut peu pour en mettre des goals. Et voilà, c'est à nous de refermer un peu plus les ouvertures, surtout en deuxième période, j'ai envie de dire. Mais non, dans l'ensemble, je pense qu'on rentre fort dans ce match. Et ensuite, on ouvre un peu. Mais voilà, on sait, on va analyser et puis on verra.
Mais la suite est déjà dans les esprits des joueurs du LHC, à l'image du co-capitaine et défenseur Joël Guenazzi.
On a déjà oublié, plus de frustration du tout, on baisse pas la tête, on est déjà à match 6, donc j'ai déjà oublié ce qui s'est passé dans le match. Donc on sait que c'est l'intérieur qui compte, le vestiaire qui compte, qu'est-ce que nous on croit. Et on a eu beaucoup de challenges depuis le début de saison, et puis on a un bon esprit d'équipe et puis on se réjouit vraiment du prochain challenge. Et puis ça, c'est ce prochain match, le début du match à Lausanne. Et puis le reste, c'est du passé.
Des propos recueillis par notre consoeur de LFM, Alessia Meroula. L'acte 6, ce sera demain à la Vaudoise Arena.
L'actu en continu sur radiochablais.ca. Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Chablais.
Entre vous et nous.
Avec Cyril.
Bonjour et bienvenue entre vous et nous, c'est parti, c'est midi et demi et comme tous les vendredis jusqu'à 13h, on vous donne des infos, des conseils et tout ce qu'il faut avant le week-end. Avec nous aujourd'hui, notre druide préféré Dominique Garonne, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Une merveille. Dominique Garonne, aujourd'hui on parle du fer.
Oui. Exactement, un oligo-élément extrêmement important pour notre organisme.
On va expliquer comment justement on fait attention à son fer. Et puis, lui, il a le fer tendu pour justement parler de règlement. C'est avec nous Léonard Dupéré, bonjour.
Bonjour Cyril.
Ah, là, quand je parlais de fer tendu, je parle d'épée, bien sûr. Je vois vos yeux un petit peu tourner. Parce que vous montez au créneau contre le nouveau règlement sur les voitures, c'est bien ça?
On va expliquer un peu où est-ce que, ce qu'il en est.
Alors, parce que j'essaie de le mettre en mode chevalier, mais on sent qu'il reste quand même temps. Comme garçon. Ce sera en deuxième partie d'émission, retrouvez-nous, c'est parti. Bon, Dominique Garonne, moi oui. J'ai toujours rêvé d'être Popeye quand j'étais enfant, j'ai mangé des épinards, ça m'a pas donné les bras de Popeye.
Grave erreur.
Le fer.
Le fer c'est bien, le prendre c'est mieux, si on en a besoin. Non, ben, justement, prendre des épinards, il n'y a rien du tout dans les épinards, surtout dans les lentilles, on en trouve énormément dans les lentilles, par exemple, okay. Les épinards, nul, zéro.
Donc ça on peut le dire tout de suite aux enfants, pour leurs parents,
voilà,
les épinards,
les
pourquoi pas, mais pas, voilà. Pas pour le fer.
Oui, parce que pourquoi? Parce que Popeye mangeait la boîte. Ah. La boîte en ferraille, là.
Forcément, on n'a pas les mêmes chicots. Non, alors, les lentilles, mais tout d'abord.
Alors, le fer, c'est un élément extrêmement important, comme le iode, par exemple, qui va pour la thyroïde, pour l'hyperlipothyroïdie, par exemple, le cuivre or argent, oligo-élément pour augmenter la force immunitaire. Une fois, on peut faire une émission sur tous les oligo-éléments, pourquoi ils sont bons. Oligo veut dire en grec peu. On en a peu dans notre organisme, on doit les donner pour les rebooster. Alors, justement, ce fer. Qui est extrêmement important pour l'enfant, la mère, les adultes. Voilà. Mais le problème, c'est que le manque de fer et trop de fer sont les mêmes symptômes.
Ah, c'est-à-dire les symptômes. Il faut identifier.
Ah, c'est ça, ouais. Les personnes, je veux dire, il y en a énormément de ces symptômes. Hein. C'est perte de cheveux, en cassant, fatigue générale, allant jusqu'à la déprime. On déprime, hein. Des troubles de la concentration, les baisses des performances, on a une lassitude, on a une peau pâle, on a pour avoir des maux de tête, on est toujours irritable, de mauvaise humeur, une sensation d'avoir toujours froid, des frissons, hein, une mauvaise circulation dans les mains et les pieds, des fourmillements, le moral sous les talons, hein, comme j'ai dit.
J'avais des petits appels à le mariage, mais disons, c'est impressionnant.
Non, mais c'est impressionnant ce faire. Et souvent, l'hypotension, une tension basse, ça peut donner des acouphènes, hein, des commissures des lèvres toujours gercées, puis on n'arrive pas à les refermer, on met n'importe quelle pommade. Pourquoi? C'est un manque de fer.
Mais c'est impressionnant ce que vous dites, parce qu'à part ça, c'est des symptômes qu'on peut avoir dans plein d'autres cas, dans donc plein il faut vraiment pouvoir identifier.
Exactement, ouais,
c'est ça met juste, du temps à identifier.
Voilà,
alors.
Exactement, c'est juste ce que tu dis, c'est difficile à identifier, mais je prends juste un petit exemple. L'autre fois, une dame de 34 ans qui vient, qui était fatiguée, qui avait elle perdait ses cheveux par poignée et tout.
Ah hein. Oui, quand même.
Et puis elle avait le moral sous les talons. On lui donne un antidépresseur pendant un mois. Et c'était l'horreur pour elle.
Ben ouais.
Je lui ai fait contrôler son fer.
Le remède est pire que le mal, si on
peut. Bien sûr. Trois semaines, trois jours après, elle revient. Le fer était tout en bas. Elle a pris du fer et trois semaines après, tout était dans les normes. Mais bien sûr, mais c'est pour ça qu'il faut toujours chercher le pourquoi du comment. C'est ça le problème. Mais maintenant, on n'a plus le temps de discuter. Voilà, vous déprimez un antidépresseur, vous perdez les cheveux, un truc pour les cheveux. Non, mais c'est pour ça qu'il faut. Et puis, souvent des aftes à répétition aussi.
Okay.
Des aftes dans la bouche, vous mettez n'importe quoi, vous gargarisez avec l'élixir du suédois, du vinaigre et tout, et ça revient à chaque fois. Et c'est un manque de fer ou trop de fer. C'est pour ça que j'insiste. Manque de fer et trop de fer sont les mêmes symptômes. Donc, il faut quand même faire vraiment une prise de sang pour savoir quoi, comment.
Il n'y a que la prise de sang qui pourra
voilà,
vraiment
tout
définir.
À fait. Et puis chez les gamins, ça peut donner une hyperactivité. Et puis, ben voilà, la TDAHA, trouble d'attention avec hyperactivité. Et là, il faut regarder d'abord le fer. Les enfants anémiques, par exemple, ils ont de la peine à se concentrer. Il faut, au départ, regarder le fer. C'est ça qui est important. Et je dis bien, on cherche midi 14h, mais on ne cherche jamais pourquoi. Et souvent, alors on prend un conseil de si on sait les résultats, hein, parce que trop de fer, c'est simplement des saignées, il n'y a pas de médicaments.
C'est impressionnant à part ça quand même, hein, pour avoir des connaissances qui voilà. doivent les faire.
C'est... Trop de fer, c'est l'hématocomatose, ça peut donner le cancer du foie. Hein. Alors c'est pour ça qu'il faut faire des saignées. Et puis souvent c'est génétique, alors le père ou le grand-père qui ont eu ça, les enfants doivent quand même regarder.
Faut parce contrôler.
Que on fabrique du fer, on ne sait pas pourquoi. Et puis le manque de fer, mieux vaut prendre un fer naturel qu'un fer bivalent, qui est beaucoup mieux absorbé par l'organisme. Qu'un fer trivalent, des fers chimiques ou des fers en injection, parce que quand on injecte du fer, c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus, ça peut donner des thromboses, alors il faut faire vraiment attention.
Bivalent et trivalent ?
Bivalent, c'est le fer naturel,
okay.
Et puis trivalent, c'est le fer chimique. Et puis le fer chimique, ben, qu'est-ce qu'il peut il peut causer de la constipation et puis des nausées, tandis que le fer naturel,
ben, il n'y
a aucun souci, il est beaucoup mieux absorbé par l'organisme. Puis en 10 jours, moi j'ai pris du fer, mais il ne remonte pas. Alors, on se pose la question, pourquoi ? Parce que il y a chez certaines personnes qui ont des problèmes d'estomac, par exemple l'Helicobacter pylori dans l'estomac qui empêche une bonne fixation du fer, de trop de zinc, on a parlé du zinc, il faut les prendre du zinc pendant ce fameux Covid et tout, là on se bourrait de zinc, et le trop de zinc, on a également extrêmement important aussi, eh ben, il empêche une bonne fixation du fer. Vous avez aussi des
conséquences.
Ben ouais. Et puis éventuellement des vers dans les intestins peuvent empêcher une bonne fixation du fer. Et puis aussi, quand on prend du fer, on conseille de toujours prendre avec la vitamine C ou la vitamine B12. Et puis souvent, il y en a qui ils suivent bien le règlement, mais ils se bourrent de thé noir, ça empêche une bonne fixation du fer.
Hein, important
c'est,
aussi.
Ouais, c'est, et puis,
donc toujours varier voilà. les plaisirs.
Et en plus, le lait, les produits laitiers rendent plus difficile l'absorption du fer. Ben, la faute revient au calcium que contient beaucoup les produits laitiers. Si on prend le fer sous forme de comprimé de goutte, on devrait une heure après ou une heure avant prendre ces médicaments naturels pour le faire avant de prendre des produits laitiers, des yogourts, du lait, enfin bref. C'est pour ça qu'il y a souvent des gens qui ne fixent pas bien le fer. Il faut aussi se poser la question, pourquoi ?
Parce que justement, il peut y avoir un problème d'alimentation voilà, autre qu'un voilà. problème purement médical ou génétique.
Et puis, savoir aussi que les femmes qui ont des règles abondantes, elles ont un manque de fer. Ça, c'est
normal. C'est logique.
Bien sûr. Mais là, voilà, après, ben, on va chercher midi 14 heures, puis on sait pertinemment qu'elles ont un manque de fer à cause des règles abondantes. Et ben, elles vont justement prendre beaucoup de fer naturel. Les femmes enceintes aussi. Les femmes enceintes, c'est important de prendre du fer, surtout les 3 derniers mois, parce que l'enfant a besoin de fer, l'enfant et la mère devraient doubler la mère devrait doubler la dose de fer.
La dose de fer. Bah ouais. Alors, justement, maintenant, pour pas non plus faire n'importe quoi et abuser du fer, on fait comment ? On fait par cure. Vous l'avez dit dans les lentilles, donc dans l'alimentation, mais là aussi, bah, comme on le dit toujours, non trompons sans faux.
Voilà, bien sûr, mais on a énormément de produits naturels, hein, énormément. Bon, on a en spagyrie, on a les gélules fluoradix, on a les gélules de strate, et puis on a des comment dans les aliments, hein, dans les aliments comme je viens de le dire les lentilles, dans le parmesan aussi. Bon, le parmesan il contient beaucoup de calcium, faut faire un petit peu attention. De nous on parle du calcium, mais
ouais,
peut-être le premier de fer.
Un peu sur la carbonara.
Voilà,
on
n'a jamais. Parce que le fer est important aussi pour l'hémoglobine, c'est quoi? C'est les globules rouges. Et puis les globules rouges et le fer, ben, ils vont amener de l'oxygène, justement, des poumons aux cellules du corps. D'où l'importance de ce fameux fer, parce que tous les sportifs devraient prendre du fer aussi. Parce que ça amène de l'oxygène aux muscles. Les femmes enceintes, les personnes d'un certain âge, justement, qui ont des problèmes de fatigue, devraient regarder du côté du fer.
Mais alors, on fait comment? On va voir son médecin préféré. Prise de sang, ouais, contrôler le fer, juste pour être sûr.
Analyse de cheveux, alors on peut dire, soit prise de sang.
Arrêtez de nous regarder comme ça, Dominique. Vous avez deux chauves en face de vous.
Ah, j'ai deux tatas pieds nus en face.
On parle un peu trop de capillarité aujourd'hui.
Il va nous vexer bientôt. Non, alors, donc prise de sang ou les cheveux?
Voilà, ouais, tout à fait. Ouais. Puis les conséquences d'une anémie, ben moi, c'est des risques cardiovasculaires, des œdèmes, des membres inférieurs, une augmentation du risque de la maladie de Parkinson, hein. Et puis chez la femme enceinte, ben un risque accru de naissance prématurée et du bébé qui peut naître avec un poids très très faible. Et puis comme je l'ai dit, chez les enfants, des troubles d'attention avec hyperactivité. Alors c'est pour ça que ce fer est un oligoélément extrêmement important et on devrait toujours, au départ, lorsqu'on est, je viens de citer tous ces symptômes, ouais. Voir si c'est vraiment le fer ou bien autre chose. On dit que lors chaque menstruation, l'organisme féminin peut perdre de 15 à 30 mg de fer, c'est quand même énorme, puis on en a besoin de 5 mg par jour.
Donc forcément, si on en perd 30, on pas gagné.
Alors justement, c'est pour ça, mais j'insiste pour que souvent que le fer naturel est beaucoup mieux absorbé par l'organisme que le fer chimique. C'est pas parce que je veux vendre du naturel, mais le fer chimique, comme je dis, il donne des nausées, de la constipation, en plus.
En plus de tout. Et puis si on a des questions, on va voir son sabre gris préféré.
Exactement, voilà. Et on est là pour justement écouter et renseigner.
Merci Dominique Garonne. La Dominique Garonne a monté, bien sûr, cette interview, cet entretien, dès cet après-midi en podcast sur radiochablais.ch d'ici quelques instants. On fait un point voiture et nouveau règlement sur les véhicules avec Léonard Dupéré du Garage Imoff. À tout à l'heure.
Radio Chablais, programme de nuit.
Entre vous et nous,
l'émission pour bien vivre au quotidien.
Et justement, pour mieux vivre au quotidien, on vous a parlé du fer il y a quelques minutes avec Dominique Garonne de la Droguerie Garonne. Et maintenant, on va parler de nouveaux règlements véhicules, sujet qui rend bien énervé notre invité du
mais
jour.
Pas du tout.
Léonard Dupéré du Garage Imoff. Avec un petit peu, comme ça, léger.
J'ai des gélules inactives.
pour calmer la peau. Bon alors, expliquez-nous, il y a des nouveaux règlements qui sont entrés en vigueur, c'est ça?
Voilà, la nouvelle réglementation GSR. GSR, c'est justement le règlement sur la sécurité générale des véhicules. Donc c'est une série de systèmes qui sont obligatoires.
Dorénavant sur les véhicules.
Donc ce sera obligatoire depuis le 7 juillet 2024, donc 7 juillet prochain quoi.
Mais ça veut dire que c'est pour les véhicules qui seront produits.
Oui,
on
ne
va pas changer
son
véhicule.
Non, on ne va pas rajouter sur un véhicule qu'on a actuellement, mais tous les véhicules neufs, ils seront
à partir du 7 juillet produits avec ça. Tous les véhicules.
Toute l'Union européenne.
Ok.
Puis la Suisse parce que.
Bah voilà.
Parce qu'elle suit les voilà exactement. Et puis, ce règlement, il a été adopté en 2019, donc ça veut dire